Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour sur les ondes de CFAC 88.3. Jérémy, tu avais un gros dossier pour nous ce matin.
Oui, c'est ça. Mon objectif, c'est de vous démêler ça, mais watch out, je vais vous mêler. en gros, c'est ça. Je vais vous parler un petit peu de c'est quoi l'extrême droite, de la droite radicale. C'est quoi ces affaires-là? On mélange les termes, on entend ça aux nouvelles. Qu'est-ce que c'est de l'extrême droite? Les érudits des années précédentes, ils ont utilisé plusieurs termes pour décrire l'extrême droite, la droite radicale, les anti-migrants, le néo-populiste, la populiste droite radicale. Mais nous, on va aller avec, entre autres, la définition de Betts. Betts, il dit que la droite radicale, les partis politiques populistes, les partis populistes sont radicaux dans leur rejet des systèmes socioculturels et sociopolitiques établis et leur plaidoyer en faveur de la réussite individuelle, d'un marché libre et d'une réduction drastique du rôle de l'État, sans toutefois remettre ouvertement en question la légitimité de la démocratie en général. Ils sont de droite d'abord dans le rejet de l'illégalité individuelle et sociale et des projets politiques qui cherchent à y parvenir. Ils sont dans leur opposition à l'intégration sociale des groupes marginalisés et dans leur appel à la xénophobie, sinon racisme, antisémitisme manifeste. Ils sont populistes dans leur utilisation sans scrupules et leur instrumentalisation des sentiments diffus d'anxiété et de désenchantement du public, et leur appel à l'homme ordinaire et à ses soi-disant bon sens supérieurs. L'économie n'est cependant pas la question centrale des groupes d'extrême droite. Ils tentent de le dire, mais ils l'évoquent, mais c'est pas au cœur de leurs idéaux. Les partis de droite, d'extrême droite bénéficient certainement de l'insatisfaction et du ressentiment à l'encontre des partis établis, mais ça ne s'agit pas seulement d'un vote contre une autorité. En fait, c'est généralement une motivation qui mélange insatisfaction et de menaces ethniques perçues. Tandis que lui, Mudde, je sais pas comment on prononce son nom, Mudde, M-U-D-D-E, lui parle de, entre autres, de plusieurs vagues d'extrême droite depuis l'après-guerre. Lui, il va dire qu'il y a eu une troisième vague de l'extrême droite qui était de 1980 à 2000, où les partis d'extrême droite ont connu un début de succès électoral. Puis ensuite, il a dit que la quatrième vague, qui est actuellement, c'est la normalisation de l'extrême droite dans les espaces publics. Mudde, sépare en fait l'extrême droite et la droite radicale. Ça, c'est une définition que j'apprécie un petit peu plus. Parce que la première définition, elle mélange entre autres populisme et extrême droite. Puis je suis quand même pas d'accord, bien que les partis d'extrême droite qu'on connaît sont en général populistes. Selon moi, c'est deux choses complètement différentes. Okay. Fait que Mudde, lui, dit que l'extrême, en fait, c'est il rejette les fondements de la démocratie. L'exemple le plus clair de l'extrême sont le fascisme sous Hitler et Mussolini. La droite radicale, en fait, ça accepte l'essence de la démocratie, mais s'oppose aux éléments fondamentaux des démocraties libérales. Plus notablement, les droits des minorités, l'état de droit et la séparation des pouvoirs. Donc, la droite radicale, c'est Trump. On va donner un exemple, c'est plus ça. Donald Trump n'est pas forcément antidémocratique, mais qui évoque certains, parfois, concept, idées, concepts antidémocratiques. Mais la droite radicale se veut fondamentalement démocratique, opposée à la démocratie libérale. Ou en tout cas, à leur idéaux, tandis que l'extrême droite est forcément antidémocratique. C'est ça. Mais les deux sous-groupes opposent quand même le consensus démocratique libéral d'après-guerre de façon fondamentale. Fait qu'ils ont le même fondement de s'opposer à la démocratie libérale. L'extrême, encore une fois, est révolutionnaire dans un sens, est radical et réformiste et croit dans le pouvoir du peuple au contraire de l'extrême. Tandis que le radical et réformiste, et croit dans le pouvoir du peuple au contraire de l'extrême. Donc Donald Trump croit justement au peuple et en la capacité de changer justement les assises de la démocratie libérale. Okay. Puis le populisme, en fait, Mudde, lui, définit le populisme comme étant une idéologie qui considère que la société comme étant divisée en deux groupes homogènes antagonistes, les personnes pures et l'élite corrompue. Fait que c'est ça que ça fait le populisme. il argumente que la politique devrait être l'expression de la volonté générale du peuple. En théorie, le populisme est démocratique, mais anti-libéral démocratique. Conséquemment, l'extrême droite est par définition non populiste, alors que la radicale peut l'être, mais pas forcément, mais elle l'a été en majorité dans le 21e siècle. pourquoi on mélange beaucoup les termes en ce moment dans l'espace public? Ben, Andrea Pirro, lui, soutient que la complexité de la politique d'extrême droite remet en question les distinctions conceptuelles de longue date qui la définissent en interne. En gros, l'utilisation d'un concept général peut aussi accroître la précision dans la discussion sur ce phénomène, tout en soulignant le développement d'une nouvelle phase dans la politique nativiste. En gros, lui, ce qu'il dit, là, il va falloir imaginer avec moi. Donc, imaginez la droite radicale d'un côté et l'extrême droite de l'autre. Là, lui, il utilise des termes en anglais, puis j'ai pas trouvé un équivalent en français, mais c'est souvent ça dans la politique internationale. Ça se fait tout en anglais, puis après, il faut traduire. Ouais. Sauf que, lui, il dit que le « radical right », l'extreme right, puis là, on utilise un terme englobant qui s'appelle le far right. Fait que je sais pas c'est quoi en français, le far puis l'extreme, ça veut ouais. dire c'est la même chose, ou comme la droite lointaine, ou en tout cas.
Ouais.
Donc c'est ça, fait que lui, il dit que en utilisant justement un terme parapluie, le far right, qui englobe la droite radicale puis l'extrême droite, on démontre en fait l'évolution du phénomène justement de l'extrême droite puis la droite radicale dans les dernières années. Et il soutient qu'il y a bien que l'extrême droite se veut antidémocratique puis la droite radicale se veut démocratique, ces deux groupes-là se parlent de plus en plus et se touchent de plus en plus et se mélangent de plus en plus dans une évolution justement dans la mouvance de l'extrême droite. Donc lui, il encourage l'utilisation du terme parapluie far right pour parler d'une évolution justement de ce concept-là. Et c'est peut-être pour ça qu'on en entend beaucoup plus parler de façon... les termes sont de plus en plus mélangés parce que c'est... Selon lui, ça démontre justement l'évolution du mouvement qui se mélange de plus en plus.
C'est ça, c'est une espèce de fusion de ces deux extrêmes-là ouais. qui peuvent en donner mm-hmm. un seul, mais qui sont en français regroupés sous la bannière d'extrême droite.
Exact, fait exact.
Peut-être ça viendrait de là, cette espèce
oui,
de
évolution, mélange-là. Ouais, d'une évolution conceptuelle. Ouais. Il n'y a pas une fusion encore, là.
Les idées se rapprochent.
Exact. Fait que ça lui dit que les frontières entre l'extrême droite et la droite radicale commencent à s'estomper. Puis le recours à un genre plus abstrait n'est pas une solution sous-optimale. L'utilisation du terme générique extrême droite, là, comme en français on utilise l'extrême droite pour englober le tout, pour ainsi mieux délimiter ce phénomène et améliorer en fait la précision conceptuelle grâce à son pouvoir agrégatif. Donc, et ce far-right-là qui englobe tout, ben. Je vais dire extrême droite parce que c'est comme ça qu'on le qualifie en français, même si on commence à mélanger des termes. Ouais. On qualifie en général d'extrême droite, ben ça l'englobe aussi les nativistes et les autoritaires. Donc lui, c'est tout ça, puis on commence justement à en parler un petit peu plus de ces nativistes et ces personnes puis ces autoritaires. Les autoritaires-là, tu sais, j'en parlais un petit peu hier justement d'un groupe. Qui est très soutenu d'ailleurs par Elon Musk, en Allemagne, qui est le AfD, si je me souviens bien, l'AfD qui a été considéré par le gouvernement allemand comme étant un groupe possiblement radicaux,
ouais.
qui souhaite faire une société en deux temps. Ça, c'est une politique nativiste qu'on dit, donc les Allemands et les autres.
Ouais.
Si jamais ça vous rappelle quelque chose... Soyez pas surpris.
Oui, surtout
c'est
en Allemagne.
Donc, c'est ça. Il y a une réelle montée de l'extrême droite. Puis c'est ça, lui, mode MUDDE. Je sais vraiment pas si c'est comme ça qu'il s'appelle. Il s'appelle Terre. Là. Mais il soutient vraiment qu'on est dans une quatrième vague et que là, il y a une normalisation du discours d'extrême droite dans l'espace public. Puis je suis convaincu qu'il a raison. On le voit, là. Tu sais, je suis désolé pour le monde qui croit pas, mais Elon Musk a vraiment fait un salut nazi là à télé. Pis...
Ben, ceux qui le croient pas, c'est juste. C'est se mettre. Tu sais, en tout cas, c'est de l'aveuglement volontaire.
Oui, c'est ça, exact. Genre... Puis après, tu sais, ça, le lendemain, il est allé faire une présentation, puis il a dit ah, arrête, faut que les enfants arrêtent d'avoir honte de ce que leurs parents ont fait. Deux jours avant la soirée commémorative
ouais,
de l'Holocauste.
Ouais, puis ça, puis c'était dans un, c'est ça, ce discours-là qui était dans une conférence de ce groupe
oui.
d'extrême droite italienne-là. Pas l'italienne, c'est
allemande,
oui.
Moi, à toutes les fois que je pense à Elon Musk, là, je suis comme répugnée, là, il me frustre. Et deuxièmement, je me dis, il a quand même été marié et eu des un enfant, deux enfants non, avec Grimes,
oui.
Qui est une Canadienne.
C'est juste des Canadiennes.
Et c'est ça, puis je suis comme...
Ah ouais?
J'ai honte. Mais genre, je suis désolée, mais j'ai absolument honte.
Oui,
là.
Lui, c'est 8 enfants, dont moins une, parce qu'il en reconnaît pas une.
Oui, bon, c'est ça.
Il y en a 12.
De 12?
Il y a 12 enfants.
C'est pire.
Comme à toutes les fois, je me dis, ah,
mais ultimement, avec tout ça en plus, parce qu'il y a jamais... Il n'a jamais démenti, il s'est jamais excusé, il n'a jamais dit mes gestes ont peut-être été mal interprétés. Il ne l'a jamais accusé en plus. Fait qu'il y a comme toute cette espèce de gros point d'interrogation là de où est-ce qu'il s'en va, ce monsieur-là. Et présentement, il détient tous les numéros de sécurité sociale des Américains parce qu'il s'est emparé du système de paye américain avec ses stagiaires qui sont âgés entre 21 et 25 ans. Et il me semble qu'il y en a un, son nom d'utilisateur, là, j'y vois de mémoire, c'est quelque chose comme Big Balls. Fait que, tu sais, ça donne à peu près l'idée de l'équipe avec laquelle il est entouré pour gérer le salaire des Américains présentement aux États-Unis.
C'est ça, oui. Okay. Toutes les femmes d'Elon Musk sont canadiennes.
Hey.
Toute la gang.
Surprenant.
Ben voyons, ça prend l'intervention.
Mais tu sais, je vois ça, puis je suis comme, ah, tu sais, tu peux pas trop read into it, là. Tu peux pas trop en faire une conclusion, mais toute la gang sont canadiennes.
Mais c'est qu'il y a aussi que tu peux, tu sais, sans nécessairement des documentaires, mais tu sais, il y a des trucs qui prouvent que tu vois le Elon Musk original il y a 4-5 ans qui était pour l'environnement, pour bien faire, tu sais, qu'il y a vraiment, il était... encore une bonne personne à ce moment-là, puis que du jour au lendemain, du tac au tac, il a viré de bord complètement, puis il est rendu l'aide qu'il est aujourd'hui. Là.
Mais je sais pas si c'était un personnage ou si il a vraiment juste réalisé, comme je le sais pas. Mais moi, ça, j'en parlais justement avec ma famille récemment, puis j'étais comme, moi, ça me fait peur le fait que c'est un des hommes, si c'est pas l'homme le plus puissant au monde en ce moment-là. Genre, avec tout ce qui... puis l'argent qu'il y a et tout, là.
Il est-tu encore le plus riche ou il est deuxième? S'il n'est pas le premier, il est deuxième parce qu'il a dépensé beaucoup.
Mais l'influence qu'il détient auprès de Donald Trump,
c'est
impressionnant. Là,
À quel point c'est un personnage parce qu'il veut juste accélérer son processus d'aller sur Mars en étant directement aux commandes pour, aux surprises, donner des subventions à sa compagnie? C'est une possibilité, mais encore une fois, non, c'est un personnage qui est extrêmement énigmatique.
Des fois, je suis quand même content que nos ministres doivent être élus, ou en tout cas, ils sont pas forcément obligés d'être élus, mais doivent être ministres et sous promesse
au préalable
de participer à une élection partielle par la suite. Là. Mais ce qui est arrivé avec François Legault il y a une couple d'années d'ailleurs. Mais il faut que ça soit des gens élus. Là. Les gens qui décident de la politique américaine, c'est tous des gens pas élus. Je dis tout, là, mais c'est pas vrai. Là, c'est... La division du pouvoir est très forte aux États-Unis. C'est tout un shit show, leur affaire.
Ben, c'est qu'ils ont pas cette obligation-là aux États-Unis de prendre des sénateurs ou de prendre d'autres représentants à la nation pour faire ces termes-là. Donc, ça donne un Elon Musk, un RFK Jr., le Pete machin de Fox News.
C'est sûr, t'allais dire Pete Davidson.
Ça, un peu plus.
À limite, ça aurait pu. Il aurait pu se retrouver ministre de peu importe quoi parce qu'il a déjà dit... Non, c'est pas vrai, il peut pas parce qu'il a déjà dit contre Trump en parlant des... Quand il était à... Nightlife, qu'il écoutait pas puis qu'il suivait pas les consignes. Fait que il a techniquement parlé contre Trump. Fait qu'il y aura pas de promotion pour Pete Davidson. Ça sera pas dans cette vie-ci pour lui. On s'arrête là-dessus au retour. La deuxième heure du 9 sur les ondes de CFA 88.3.